Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 5, chapitre 7. Eck attaque Mélenchon, défense de Mélenchon, interprétation de l'Écriture sainte, fermeté de Luther, les frères de Bohême, Emser, Stopitz. Eck s'abandonnait à toute l'ivresse de ce qu'il voulait faire passer pour une victoire. Il déchirait Luther, il entassait accusation sur accusation, il écrivait à Frédéric, il voulait, comme un général habile, profiter du trouble qui suit toujours une bataille pour obtenir du prince d'importantes concessions. En attendant les mesures à prendre contre son adversaire lui-même, il appelait les flammes contre ses écrits et même contre ceux qu'il n'avait pas lus. Il suppliait les lecteurs de convoquer un concile provincial. « Exterminons toute cette vermine, » disait le grossier docteur, « avant qu'elle se soit multipliée à l'excès. » Ce ne fut pas seulement contre Luther qu'il déchargea sa colère. Son imprudence appela Mélenchon dans la lice. Celui-ci, lié par une tendre amitié avec l'excellent Écho Lampade, lui rendit compte de la dispute en parlant avec éloge du docteur Eck. L'orgueil du chancelier d'Ingolstadt fut néanmoins blessé. Il prit aussitôt la plume contre ce grammairien de Wittenberg qui n'ignorait pas, il est vrai, disait-il, le latin et le grec, mais qui avait osé publier une lettre où il l'avait insulté, lui, le docteur Eck. Mélenchon répondit. C'est ici son premier écrit théologique. On y trouve cette exquise urbanité qui distinguait cet homme excellent. Posant les principes fondamentaux de l'herméneutique, il montre qu'il ne faut pas expliquer l'Écriture sainte d'après les pères, mais les pères d'après l'Écriture sainte. « Que de fois Jérôme ne s'est-il pas trompé ? » dit-il. « Que de fois Augustin ? Que de fois Ambroise ? Que de fois ils sont d'avis différents ? Que de fois ils rétractent leurs erreurs ? Il n'y a qu'une seule Écriture inspirée de l'Esprit du ciel, pure et vraie en toutes choses. » Luther ne suit pas quelques expositions ambiguës des anciens, dit-on. Et pourquoi les suivrait-il? Quand il expose le passage de saint Matthieu, « Tu es Pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon Église », il parle comme Origène, qui à lui seul en vaut plusieurs, comme Augustin dans son homélie, comme Ambroise dans son sixième livre sur saint Luc, je passe les autres sous silence. Quoi donc, direz-vous, les pères se contredisent? Et qu'y a-t-il d'étonnant? Je crois au Père parce que je crois à la Sainte Écriture. Le sens de l'Écriture est un et simple comme la vérité céleste elle-même. On l'obtient en comparant les Écritures, on le déduit du fil et de l'enchaînement du discours. Il y a une philosophie qui nous est ordonnée par rapport aux Écritures de Dieu, c'est de rapprocher d'elles toutes les opinions et toutes les maximes des hommes comme de la pierre de touche qui doit les éprouver. Il y avait longtemps que l'on avait exposé avec tant d'élégance de si puissantes vérités. La parole de Dieu était remise à sa place, les pères à la leur. La voie simple par laquelle on obtient le sens véritable de l'Écriture était fermement tracée. La parole surnageait au-dessus de toutes les difficultés et de toutes les explications de l'école. Mélenchon fournissait de quoi répondre à ceux qui, comme le docteur Eck, embrouilleraient ce sujet jusque dans les temps les plus éloignés. Le frêle grammairien s'était levé, et les larges et robustes épaules du gladiateur scolastique avaient plié sous le premier mouvement de son bras. Plus Eck était faible, plus il criait fort. Il prétendait par ses rodomontades et ses accusations s'assurer la victoire qui avait échappé à ses disputes. Les moines et tous les partisans de Rome répondaient à ses cris par les leurs. De toutes les parties de l'Allemagne s'élevaient des reproches contre Luther. Mais il demeurait impassible. « Plus je vois mon nom couvert d'opprobre, plus je m'en glorifie, » dit-il en finissant des explications qu'il publia sur les propositions de Leipzig. « Il faut que la vérité, c'est-à-dire Christ, croisse et que moi je diminue. La voix de l'époux et de l'épouse me cause plus de joie que toutes ces clameurs ne m'inspirent de terreur. Les hommes ne sont pas les auteurs de mes maux, et je n'ai pour eux aucune haine. C'est Satan, le prince du mal, qui voudrait m'épouvanter. Mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le jugement de nos contemporains est mauvais, celui de la postérité sera meilleur. » Si la dispute de Leipzig multiplia en Allemagne les ennemis de Luther, Elle augmenta aussi au loin le nombre de ses amis. Ce que Huss a été autrefois en Bohême, vous l'êtes maintenant en Saxe, ô Martin, lui écrivirent les frères de Bohême. C'est pourquoi priez et soyez forts au Seigneur. La guerre éclata vers ce temps entre Luther et Emser, alors professeur à Leipzig. Celui-ci écrivit au docteur Zach, zélé catholique romain de Prague, une lettre où il paraissait se proposer d'ôter aux Hussites l'idée que Luther fut des leurs. Luther ne put douter qu'en paraissant le justifier, le savant leipzigois ne se proposa de faire planer sur lui le soupçon d'adhérer à l'hérésie bohémienne, et il voulut déchirer violemment le voile dont son ancienne hôte de Dresde prétend découvrir son inimitié. À cet effet, il publia une lettre adressée au bouc Emser. Emser avait pour arme un bouc. Luther termine cet écrit par ces mots qui peignent bien son caractère « Aimer tous les hommes, mais ne craindre personne ». Tandis que de nouveaux amis et de nouveaux ennemis se montraient ainsi, d'anciens amis semblaient s'éloigner de Luther. Staupitz, qui avait fait sortir le réformateur de l'obscurité du cloître d'Erfurt, commença à lui témoigner quelques froideurs. Luther s'élevait trop haut pour Staupitz, qui ne pouvait plus le suivre. « Vous m'abandonnez, lui écrivait Luther. J'ai été tout le jour très triste à cause de vous, comme l'enfant qu'on a sevré et qui pleure sa mère. J'ai rêvé de vous cette nuit, continue le réformateur. Vous vous éloignez de moi, et moi je sanglotais et je versais d'amères larmes. Mais vous, me tendant la main, vous me disiez de me calmer, que vous reviendriez à moi. » Le pacificateur Miltitz voulut tenter de nouveaux efforts pour calmer les esprits. Mais quelle prise peut-on avoir sur des hommes qu'agite encore l'émotion de la lutte? Ces démarches n'aboutirent à rien. Il apporta la fameuse rose d'or à l'électeur, et ce prince ne se soucia pas même de la recevoir en personne. Frédéric connaissait les artifices de Rome, il fallait renoncer à le tromper. Livre 5, chapitre 8. Christ pour nous, aveuglement des adversaires, premières idées sur la scène, le sacrement suffit-il sans la foi? Luther, bohémien, Eck attaqué, Eck part pour Rome. Bien loin de reculer, Luther avançait toujours. Ce fut alors qu'il porta à l'erreur l'un de ses coups les plus rudes en publiant son premier commentaire sur l'Épître aux Galates. Le second commentaire surpassa sans doute le premier, mais déjà dans celui-ci, il exposait avec une grande force la doctrine de la justification par la foi. Chaque parole du nouvel apôtre était pleine de vie et Dieu s'en servit pour faire pénétrer sa connaissance dans les cœurs des peuples. « Christ s'est donné soi-même pour nos péchés », disait Luther à ses contemporains. « Ce n'est pas de l'argent ou de l'or qu'il a donné pour nous, ce n'est pas un homme, ce n'est pas tous les anges, c'est lui-même. » Lui hors duquel il n'y a rien de grand qu'il a donné. Et ce trésor incomparable, il l'a donné pour nos péchés. Où sont maintenant ceux qui vantent avec orgueil la puissance de notre volonté? Où sont les enseignements de la philosophie morale? Où sont le pouvoir et la force de la loi, puisque nos péchés sont si grands que rien n'a pu les ôter, si ce n'est une si immense rançon? Prétendrons-nous encore obtenir la justice par la force de notre volonté, par la puissance de la loi, par les doctrines des hommes? Que ferons-nous avec tous ces tours d'adresse, toutes ces illusions? Ah, nous couvrirons nos iniquités d'une justice mensongère, et nous ferons de nous-mêmes des hypocrites que rien au monde ne pourra sauver. Mais si Luther établit ainsi qu'il n'y a de salut pour l'homme qu'en Christ, il montre aussi que ce salut change l'homme et le fait abonder en bonnes œuvres. Celui, dit-il, qui a vraiment entendu la parole de Christ et qui la garde, est aussitôt revêtu de l'esprit de charité. Si tu aimes celui qui t'a fait cadeau de 20 florins, ou rendu quelque service, ou témoigné de quelque autre manière son affection, combien plus dois-tu aimer celui qui n'a pas donné pour toi de l'or ou de l'argent, mais qui s'est donné lui-même, qui même a reçu pour toi tant de blessures, qui a eu pour toi une sueur de sang, qui est mort pour toi, en un mot qui, en payant pour tous tes péchés, a englouti la mort et t'a acquis dans le ciel un Père plein d'amour. Si tu ne l'aimes pas, tu n'as pas entendu du cœur les choses qu'il a faites, tu ne les as pas crues, car la foi est agissante par la charité. Cette épître est mon épître, disait Luther en parlant de l'épître aux Galates. Je me suis marié avec elle. Ses adversaires le faisaient marcher plus vite qu'il ne l'eût fait sans eux. Eck excita à cette époque contre lui une nouvelle attaque des franciscains de Jüterbock. Luther, dans sa réponse, non content de répéter ce qu'il avait déjà enseigné, attaqua des erreurs qu'il avait découvertes depuis peu. « Je voudrais bien savoir, dit-il, dans quel endroit de l'Écriture le pouvoir de canoniser les saints a été donné au pape, et aussi quelle nécessité, quelle utilité même, il y a à les canoniser. Au reste, ajouta-t-il avec ironie, qu'on canonise tant qu'on voudra. » Ces nouvelles attaques de Luther demeuraient sans réponse. L'aveuglement de ses ennemis lui était aussi favorable que son propre courage. Il défendait avec passion des choses accessoires, et quand Luther portait la main sur les fondements de la doctrine romaine, il les voyait ébranler sans dire mot. Il s'agitait pour défendre quelques redoutes avancées, et pendant ce temps, leur intrépide adversaire pénétrait dans le corps de la place et y plantait hardiment l'étendard de la vérité. Aussi plus tard furent-ils très étonnés de voir la forteresse dont ils s'étaient fait les défenseurs minée, incendiée, s'écrouler au milieu des flammes, tandis qu'il la croyait imprenable et qu'il bravait encore ceux qui lui donnaient l'assaut. Ainsi s'accomplissent les grandes chutes. Le sacrement de la scène du Seigneur commençait à occuper les pensées de Luther. Il cherchait en vain cette scène sainte dans la messe. Un jour, c'était peu de temps après son retour de Leipzig, il monta en chaire. Faisons attention à ses paroles, car ce sont les premières qu'il prononça sur un sujet qui depuis a déchiré en deux parties l'Église de la Réformation. « Il y a, dit-il, dans le Saint-Sacrement de l'autel, trois choses qu'il faut connaître. Le signe, qui doit être extérieur, visible et sous une forme corporelle, la signification, qui est intérieure, spirituelle et dans l'esprit de l'homme, la foi qui fait usage de l'un et de l'autre. » Si l'on n'eût pas poussé plus loin les définitions, l'unité n'eût point été détruite. Luther continue. Il serait bon que l'Église, dans un concile général, ordonnât de distribuer les deux espèces à tous les fidèles. Non toutefois qu'une seule espèce ne suffise pas, car la foi seule serait déjà suffisante. Ces paroles hardies plaisent à l'Assemblée. Cependant, quelques-uns des auditeurs s'étonnent et s'irritent. « C'est une fausseté, disent-ils. C'est un scandale. » Le prédicateur continue. « Il n'y a pas, dit-il, d'union plus intime, plus profonde, plus indivisible que celle qui a lieu entre l'aliment et le corps, que l'aliment nourrit. Christ s'unit à nous dans le sacrement, de telle manière qu'il agit comme s'il était nous-mêmes. Nos péchés l'assaillent, sa justice nous défend. » Mais Luther ne se contente pas d'exposer la vérité. Il attaque l'une des erreurs les plus fondamentales de Rome. L'Église romaine prétend que le sacrement opère par lui-même, indépendamment de la disposition de celui qui le reçoit. Rien de plus commode qu'une telle opinion. De là l'ardeur avec laquelle on recherche le sacrement, de là les profits du clergé romain. Luther attaque cette doctrine et lui oppose la doctrine contraire, en vertu de laquelle la foi, la bonne volonté du cœur sont nécessaires. Cette protestation énergique devait renverser d'antiques superstitions. Mais, chose étonnante, nul n'y fit attention. Rome laissa passer ce qui eût dû lui faire pousser un cri de détresse, et elle se rua avec impétuosité sur la remarque de peu d'importance que Luther avait jetée au commencement de son discours touchant la communion sous les deux espèces. Ce discours ayant été publié au mois de décembre, de toutes parts s'écriva un cri contre l'hérésie. « C'est la doctrine de Prague toute pure, s'écria-t-on à la cour de Dresde, où le sermon parvint durant les fêtes de Noël. De plus, l'ouvrage est en allemand, pour que les gens simples le comprennent. » La dévotion du prince en fut troublée, et le troisième jour de la fête, il écrivit à son cousin Frédéric. « Depuis la publication de ce discours, le nombre de ceux qui reçoivent la scène sous les deux espèces s'est augmenté en Bohême de 6 000 personnes. » Votre Luther, de professeur de Wittenberg, va devenir évêque de Prague et archi-hérétique. Il est né en Bohême, s'écriait-on, de parents bohémiens. Il a été élevé à Prague et instruit dans les livres de Wycliffe. Luther crut devoir contredire ces bruits dans un écrit où il fit gravement l'histoire de son origine. « Je suis né à Isleben, dit-il, et j'y ai été baptisé dans l'église de Saint-Pierre. Dresde est le lieu le plus rapproché de la Bohême où j'ai été de ma vie. La lettre du duc Georges n'indisposa pas les lecteurs contre Luther. Peu de jours après, ce prince invita le docteur à un repas splendide qu'il donnait à l'ambassadeur d'Espagne, et Luther y combattit vaillamment contre le ministre de Charles. L'électeur l'avait fait prier par son chapelain de défendre sa cause avec modération. « Trop de folie déplaît aux hommes, » répondit Luther à Spalatin, « mais trop de sagesse déplaît à Dieu. On ne peut défendre l'Évangile sans tumulte et sans scandale. La parole de Dieu est une épée, elle est une guerre, elle est une ruine, elle est un scandale, elle est une destruction, elle est un poison, et ainsi que le dit Amos, elle se présente comme un ours dans le chemin et comme une lionne dans la forêt. Je ne cherche rien, je ne demande rien. Il en est un plus grand que moi qui cherche et qui demande. S'il tombe, je n'y perds rien. S'il demeure debout, je n'en tire aucun avantage. » Tout annonçait que Luther allait avoir besoin plus que jamais de foi et de courage. Eck formait des projets de vengeance. Au lieu des lauriers qu'il avait compté recueillir, le gladiateur de Leipzig était devenu la risée de tous les hommes d'esprit de sa nation. On publiait contre lui de piquantes satires. C'était une épître de chanoine ignorant écrite par Écho Lampade et qui blessa Eck au fond de l'âme. C'était une complainte sur Eck, probablement de l'excellent Pirkernheimer de Nuremberg, pleine à la fois d'un mordant et d'une dignité dont les provinciales de Pascal peuvent seules donner quelque idée. Luther témoigna son mécontentement de plusieurs de ses écrits. « Il vaut mieux, dit-il, attaquer ouvertement que de mordre en se tenant caché derrière une haie. » Quel mécompte pour le chancelier d'Ingolstadt. Ses compatriotes l'abandonnent. Il s'apprête à aller au-delà des Alpes et à invoquer un secours étranger. Partout où il passe, il vomit des menaces contre Luther, contre Mélenchon, contre Karlstadt et contre l'électeur lui-même. À la hauteur de ses paroles, dit le docteur de Wittenberg, on dirait qu'il s'imagine être le Dieu Tout-Puissant. Enflammé de colère et de désir de vengeance, Eck, après avoir publié en février 1520 sur la primauté de Saint-Pierre, un écrit dépourvu de toute scène critique et dans lequel il prétendait que cet apôtre, le premier des papes, avait résidé 25 ans à Rome, Eck part pour l'Italie afin d'y recevoir la récompense de ses prétendus triomphes et de former à Rome, près du Capitole papal, des foudres plus puissantes que les frêles armes scolastiques qui se sont brisées entre ses mains. Luther comprit tous les dangers que ce voyage de son antagoniste allait attirer sur lui, mais il ne craignait point. Spalatin, alarmé, l'invita à offrir la paix. « Non, répondit Luther, tant qu'il crie, je ne puis retirer mes mains de la bataille. Je remets à Dieu toute la chose, je livre mon navire aux flots et aux vents, la guerre est du Seigneur. Pourquoi vous imaginez que c'est par la paix que Christ avancera sa cause? N'a-t-il pas combattu avec son propre sang et tous les martyrs avec lui? Telle était, au commencement de l'année 1520, la position des deux combattants de Leipzig. L'un remuait toute la papauté pour frapper son rival, l'autre attendait la guerre avec le calme avec lequel on attend la paix. L'année qui s'ouvre verra éclater l'orage.